Et Axel, c'est une très grosse lune qui est aujourd'hui à la une de la science.
Oui Mathieu, et cette fois-ci c'est peut-être la première exolune que viennent de détecter des chercheurs de l'université de Columbia.
Alors c'est-à-dire
En fait, la découverte a déjà été annoncée deux fois et démentie deux fois par le passé. Mais là, les données collectées de cette gigantesque lune Kepler-1625b ont l'air plutôt sérieuses.
Voilà.
On commence cette peut-être découverte avec vous, Franck Celsis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien au LAB, c'est le laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu. Alors, on l'annonce, cette découverte, ou on se retient encore un peu, votre avis à vous, c'est quoi ?
Alors, il n'y a pas d'urgence, on peut se retenir encore un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que si on a bien affaire au système qui est déduit de ces observations, donc une planète géante de la taille de Jupiter avec une lune, donc un satellite naturel de la taille de Neptune qui
très,
tourne
très
autour, tout ça très gros, qui tourne autour d'une étoile très lointaine à 8000 années-lumière, eh bien on peut prédire les observations à venir et notamment on peut prédire les prochaines observations du passage de ce couple devant son étoile en mai 2019 et aussi pour les transits suivants, et donc on aura une confirmation. Mais déjà les données en possession sont déjà assez convaincantes, je dirais.
Alors, 8000 années-lumière, c'est très très loin. Pourquoi est-ce qu'on va la chercher si loin, cette première exolune ?
Alors, donc, pour comprendre comment on les trouve, ces exolunes, il faut revenir à la méthode des transits, hein, qui est la méthode la plus fructueuse jusqu'à présent pour trouver les exoplanètes, notamment avec le télescope spatial Kepler de la NASA, qui a trouvé la grande majorité des exoplanètes. Donc, que fait Kepler ? Qu'est-ce qu'il a fait pendant 4 ans, entre 2009 et 2013 ? Il a observé 150 000 étoiles, avec une très très grande précision. Il a mesuré leur luminosité toutes les demi-heures. Et l'idée était de découvrir des planètes par ce biais-là. Alors on sait depuis, grâce à Kepler, que la majorité de ces 150 000 étoiles observées ont des planètes, et une petite fraction de ces planètes sont bien orientées et passent régulièrement à chaque orbite devant leur étoile, provoquant une petite baisse de luminosité qu'on appelle un transit. Donc ce transit, dans la majorité des cas, il revient de façon extrêmement stable, périodique, à chaque année de la planète, à chaque orbite. Et ça nous a permis de détecter les planètes, de connaître leur période orbitale, leur distance à l'étoile, leur rayon. Et dans certains cas, ce transit, il peut être un peu irrégulier. Il peut arriver de façon non périodique, un tout petit peu en avance, un tout petit peu en retard. Et il y a deux phénomènes qui peuvent causer ça. Le premier, c'est la présence d'autres planètes dans le système. Ça a déjà été observé, ces petites perturbations par d'autres planètes dans le système. Et une autre possibilité, c'est d'avoir une lune. Car dans le cas où on a une planète et sa lune, ce n'est plus la planète qui passe périodiquement, c'est le barycentre, le centre de masse du système qui passe régulièrement. Et parfois, la planète va être un petit peu en avance, parfois un petit peu en retard.
Et si on découvre une lune aussi grosse, c'est parce que c'est les plus visibles alors par cette méthode ?
Voilà, en fait, on tablait, disons, dans le système solaire, il y a la majorité des planètes ont des lunes. Ce sont des lunes qui sont assez petites, beaucoup plus petites que la Terre, plus petites que Mars. Les plus grosses ont la taille de Mercure. Ça, c'est quasiment impossible à trouver. Donc, effectivement, on tablait sur l'existence de lunes plus grosses. Et pour le coup, on a été servi, oui. Puisque là, on aurait une lune de la taille de Neptune. Et alors, ce qui permet de confirmer que ces avances et ces retards sont liés à une lune et pas à une autre planète, c'est qu'en plus, comme cette lune est très grosse, on voit ses transits à elle aussi. C'est-à-dire qu'on a deux modèles indépendants qui collent. On a d'abord le mouvement perturbé de la planète qui passe avec des avances et des retards. Et on a aussi, qui correspond avec ce qui est prédit par la gravitation, on a aussi les passages de la Lune qui, elle, révèle son rayon. Donc, alors pourquoi on n'a pas trouvé ça jusqu'à présent ? C'est deux raisons. D'abord parce qu'effectivement, c'est un phénomène tout petit à voir, et là, on l'a vu parce que c'était un cas extrême. Et aussi, c'est parce que la plupart des exoplanètes qu'on connaît sont assez proches de leur étoile et ont des très courtes périodes orbitales. Et en fait, dans ces configurations-là, les lunes ne sont pas stables. On ne s'attend pas à trouver des lunes. Donc, pour pouvoir révéler une lune, il faut une planète loin de son étoile. Et le problème, c'est qu'on en a très peu des transits de planètes qui sont loin de leur étoile. Et c'est pour ça que, dans ces 150 000 étoiles observées par Kepler, pour trouver ça, il a fallu chercher dans les fonds de tiroir, c'est-à-dire à 8000 années-lumière. Mmh. Généralement, on préfère travailler avec des étoiles beaucoup plus proches, beaucoup plus lumineuses.
Il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce que décrivent ces chercheurs, c'est que le système décrit fait penser un peu au film Avatar, parce que c'est une planète tellurique, là, une lune qui tourne autour d'une géante gazeuse. D'un point de vue de l'habitabilité, qu'est-ce qu'on sait de cette grosse étoile, alors ?
Alors oui, la Lune, si elle a effectivement la taille de Neptune et plusieurs dizaines de masses terrestres, c'est sûrement une planète avec une grosse composante gazeuse comme Neptune. Donc on n'envisage pas trop, mais peut-être qu'on a tort, mais on n'envisage pas trop l'habitabilité de ce type de système. Ce qui est assez intéressant, oui, effectivement, si on avait à la place une planète de type terrestre, avec de l'eau, ce serait intéressant. Alors il se trouve que cette étoile-là, on n'a pas encore les bonnes caractéristiques, mais elle semble être un soleil très vieux, très évolué, qui est en train de devenir une géante. Donc actuellement, ce système de la planète Kepler 625b et de sa lune est un peu chaud. Il est pas mal plus chaud que la Terre. Mais dans le passé, si on remonte de quelques milliards d'années, il a pu être à peu près à la température de la Terre. Parce qu'en fait, l'étoile est vraiment de type solaire, et la distance entre ce couple planète-lune et son étoile est de la distance Terre-Soleil. Donc dans le passé, si ce Neptune avait été de taille terrestre, on aurait pu dire, oui, mais pourquoi pas habitable. Alors après, si on veut spéculer, imaginer des choses, on pourrait pourquoi pas imaginer que qu'il y ait d'autres satellites dans ce système, d'autres lunes, soit autour de la planète géante qui fait la taille de Jupiter, soit autour de cette lune de taille Neptune, et qui, eux, seraient de taille terrestre et qui ont pourquoi pas été habitables. Mais bon, là, c'est une très grosse spéculation. Mais puisqu'on en trouve des très grosses et qu'il y en a des toutes petites dans le système solaire, ça doit bien exister, les satellites, les lunes de taille terrestre et à des distances habitables. Donc la configuration qu'il y a dans Avatar, même si on peut démontrer qu'elle n'existe pas autour de l'étoile d'Avatar, c'est-à-dire dans le système d'Alpha du Centaure, pour différentes raisons. Par contre, cette configuration-là risque tout à fait d'exister dans la diversité des systèmes exoplanétaires.
Bon, mais c'est le monde des géants, visiblement, là-bas, 8000 années-lumière. Et donc, confirmation, mai 2019, Franck Celsis, hein, c'est ça?
Oui, disons que voilà, avec une nouvelle observation de Hubble en mai 2019. Alors, j'ai cru comprendre que Hubble avait des petits soucis, donc j'espère que c'est pas grave, mais normalement, oui.
Merci beaucoup à vous, merci aux équipes de France Bleu à Bordeaux. Et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, le plus grand organisme vivant connu de la planète mesure la taille de 350 piscines olympiques et couvre une surface de 10 km². C'est un champignon nommé Amiralia ou Honey Mushrooms, découvert en 1980 dans l'Oregon, aux États-Unis. Son gigantesque réseau de mycélium qui couvre des forêts entières s'immisce entre le tronc des arbres et leur écorce pour les parasiter. Grâce à une analyse génétique de ce spécimen hors norme, les chercheurs estiment aujourd'hui qu'il aurait environ 2500 ans. Mesurer la nocivité des composés de la vapeur des e-cigarettes, une équipe de chercheurs du Maryland a voulu connaître les effets à moyen terme de la fumée de ces cigarettes et de la vapeur des e-cigarettes sur des souris. Après 4 semaines d'exposition régulière toutes les 30 minutes, ils remarquent des niveaux d'inflammation et des dommages sur les poumons quasiment similaires entre e-cigarettes et cigarettes, voire plus important d'ailleurs pour les souris soumises à une vapeur contenant des additifs de saveur et des arômes. Les chercheurs concluent à un besoin important d'autres études toxicologiques chez l'homme en particulier. Et puis à Amiens, le robot Max AI va améliorer le tri des déchets. Dopé à l'intelligence artificielle, il permet de supprimer des éléments indésirables sur un tapis roulant installé sur une chaîne de tri de déchets fibreux comme le carton et le papier. Il apprend et écarte à la demande les canettes, les pots de yaourt et les emballages en plastique à une vitesse effrénée d'un geste par seconde. Étant donné le défi autour du tri et du recyclage à l'avenir, aucune baisse d'emploi est à prévoir avec l'arrivée de ce robot, assure l'installateur Veolia pour la ville d'Amiens.